Ce matin, la Fabrique de l'Histoire débute une semaine consacrée aux grandes enquêtes. Les enquêtes de Louis IX sur son peuple, par exemple au Moyen-Âge, les enquêtes des hygiénistes au XIXe siècle ou les grandes enquêtes anthropologiques ou des sociologues au XIXe et XXe siècle. Pour commencer cette émission, après un nouvel épisode de la Fabrique de la Guerre froide, notre feuilleton préparé par Anaïs Quien, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir comme souvent Alain Corbin, l'historien qui publie chez Albin Michel une histoire du silence. Il nous racontera comment le silence, ça n'est pas simplement l'absence de bruit. Et puis ensuite, en deuxième partie de cette émission, pour ouvrir notre semaine consacrée justement aux grandes enquêtes, le sociologue Christian Topalov viendra nous parler de son livre Histoire d'enquête, Londres, Paris, Chicago, 1880-1930, publié chez Garnier l'année dernière. Et enfin, tout de suite, le nouvel épisode, le 29e de la Fabrique de la Guerre froide, préparé par Anaïs Quien. Aujourd'hui, Johann Chapoutot, historien de l'Allemagne, nous raconte le début du blocus de Berlin en 1948.
We must remember that Australia, New Zealand and Canada
President Truman has just announced that Soviet Russia has the atomic bomb.
I believe in the Soviet system. And here I was working for the FBI, the enemy.
La fabrique de la guerre froide. Le 24 juin 1948, l'Union soviétique isole la zone ouest de Berlin sous administration américaine, britannique et française pour protester contre les projets occidentaux de fondation d'un État démocratique allemand et de la création de sa monnaie, le Deutschmark. Le blocus de Berlin dure près d'une année, jusqu'au 12 juin 1949.
À Berlin, à la suite des récentes mesures prises par les autorités soviétiques, les transports sont menacés d'arrêt complet. Et ces images de tramways bondés sont peut-être les dernières que les Berlinois verront d'ici de longs jours. Comme en un match revanche, les alliés de l'Ouest, marquant point pour point, ont mobilisé pour subvenir aux exigences du ravitaillement de la ville une véritable armada aérienne.
L'Ouest de la ville est ravitaillé par un point aérien d'une ampleur inédite pour subvenir aux besoins des 2 millions de personnes qui y vivent.
Chargés de blé et de viande, les appareils se succèdent sur les pistes à la cadence jamais atteinte d'un atterrissage toutes les 2 minutes. Pour la première fois dans l'histoire, une ville de 2 millions d'habitants voit sa consommation de charbon assurée par les airs. Effort prodigieux qui permet de décharger chaque jour les 300 tonnes de combustible nécessaires à la vie de Berlin. Nouvel épisode de cette lutte d'influence qui oppose les alliés dans la capitale d'un pays vaincu.
Berlin, c'est le monde bipolaire en miniature.
Johann Chapoutot.
L'évolution générale, c'est 1947, une consécration tous azimuts de la guerre froide. On ne s'entend plus du tout. Dans cette nouvelle configuration-là, la présence des alliés de l'Ouest en pleine zone d'occupation soviétique à Berlin dit Ouest devient un véritable problème pour Staline. D'où les demandes formulées par Staline d'évacuer la zone de Berlin-Ouest. C'est un refus très clair des Américains avant tout et des autres alliés. N'ayant pas obtenu politiquement ou diplomatiquement ce qu'il voulait obtenir, Staline va passer à... Alors il peut pas, pour des raisons d'armement nucléaire américain, il ne peut pas passer à l'option militaire. Et puis d'ailleurs, l'armée rouge est un peu épuisée par la Seconde Guerre mondiale. Donc il va passer à l'arme démographico-économique par un blocus, en l'occurrence, plutôt qu'un blocus, une mise hors sol de Berlin-Ouest, qui va être coupée de toutes ses routes terrestres et maritimes et fluviales d'approvisionnement. Plus rien ne doit arriver à Berlin-Ouest. Plus de charbon, plus de nourriture, plus d'énergie, plus d'eau, plus d'électricité.
Mais en faisant ça, il risque de se mettre à dos toute la partie ouest de Berlin et toute la population qui vit dans cette partie-là de Berlin.
Oui, alors, se mettre à dos une population, c'est quelque chose qui ne fait pas terriblement peur à Staline, en fait. Hein. Il a déjà fait ça à plusieurs reprises, un peu partout, en URSS. Il l'a fait ensuite dans toute la zone d'occupation soviétique, dans la vaste Europe de l'Est, en gros, de la Méditerranée jusqu'à la mer Baltique. Donc s'aligner une population supplémentaire de quelques millions d'habitants, quelques centaines de milliers d'habitants, ça ne l'émeut pas plus que ça. C'est un mauvais moment à passer, et puis ensuite, la main de fer stabilise la situation.
Et comment va-t-on réussir à sortir de ce moment de blocage? Enfin, un moment de blocage, à mi-chemin entre le blocage et la déclaration de guerre, une guerre qu'on va dire froide, même si elle fera quand même énormément de morts, mais une guerre malgré tout.
La réponse des Alliés a été, notamment avant tout des Américains, a été très intelligente. La solution la plus brutale, ça aurait été la guerre. Cela dit, est-ce que le jeu en valait la chandelle? Peut-être pas. Est-ce que pour Berlin-Ouest, pour quelques milliers d'hectares, on allait déclencher une troisième guerre mondiale? Peut-être pas. Donc la solution qui a été adoptée, c'est une solution absolument inimaginable à l'époque, qui est une prouesse stratégique et technique, qui est un pont aérien. Un pont aérien avec une structure dont bénéficient les Américains, qui est l'aéroport de Tempelhof, qui est un gigantesque aéroport. Encore aujourd'hui, le terrain est très très impressionnant à Berlin. C'est un aéroport qui est désaffecté maintenant et qui sert d'aire de jeu pour les Berlinois, mais les structures existent toujours. C'est une structure aérienne très importante dont bénéficient les Américains parce qu'elle est dans leur zone d'occupation, à Kreuzberg, dans le quartier de Kreuzberg. Et c'est en se fondant sur cette base-là, aérienne-là, qu'un pont aérien va être développé. Avec, à certaines périodes, un atterrissage et un décollage de gros porteurs américains toutes les minutes. C'est-à-dire qu'on va importer des millions de tonnes de vivres, de médicaments, de charbon, de bois, etc., par avion. Ce qui était techniquement inimaginable et qui a été réalisé par cette espèce de volontarisme et de gigantesque puissance économique et logistique américaine qui, là, a impressionné le monde entier, et notamment Staline, qui, un an plus tard, humilié au fond par la réussite de cette prouesse technique et logistique, a décidé de lever le blocus parce que la leçon avait été administrée, que les Américains avaient les moyens.
Et les moyens de conforter les opinions publiques du monde entier en leur faveur?
Oui, parce que le pont aérien, effectivement, c'est un bombardement pacifique, bénéfique. Les Berlinois ont affectueusement surnommé les B-52, qui auparavant larguaient des bombes sur Berlin, qui désormais larguaient des chewing-gums, puisque avant d'atterrir, les pilotes jetaient par la fenêtre des bonbons, des biscuits, des chewing-gums, des cigarettes, etc. Les Berlinois ont surnommé ces B-52 des Rosinenbomber, c'est-à-dire des bombardiers de raisins secs. Et le message qui a été adressé aux Berlinois, aux Allemands et au monde, c'est la puissance militaire, logistique, stratégique, économique américaine, c'est une puissance nourricière. C'est le plan Marshall, c'est le pont aérien, on ne largue pas des bombes, on largue de la nourriture.
Voilà pour ce 29e épisode de La Fabrique de la Guerre Froide préparé par Anaïs Quien et Séverine Cassard que vous pouvez télécharger séparément du reste de l'émission pour garder l'ensemble de ce feuilleton avec vous. Bonjour Alain Corbin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour votre histoire du silence, de la Renaissance à nos jours qui vient tout juste de paraître, qui paraît même cette semaine chez Albin Michel. Il faudrait commencer en disant chut.
Oui, bien entendu.
C'est-à-dire ne plus parler d'une certaine façon. Mais en même temps, le silence, ça n'est pas simplement ne pas faire de bruit, c'est autre chose.
Absolument. Je n'ai pas fait du tout une histoire du bruit, ni une histoire de l'absence de bruit.
Que vous aviez déjà fait ailleurs, d'une certaine façon, avec les cloches de la terre.
Le silence, c'est... Voilà, je viens de marquer une pause. C'est le retour sur soi... La plongée dans l'intériorité, dans l'introspection, dans la réflexion, dans l'oraison pour les catholiques ou les gens religieux, c'est l'écoute de la parole avant qu'elle n'émerge, en quelque sorte. Et c'est peut-être un trésor qui aujourd'hui, je ne suis pas compétent pour le dire, mais qui aujourd'hui s'efface.
Oui, et donc vous faites une longue histoire à partir de sources essentiellement littéraires. On cite fréquemment dans votre livre Julien Gracq, Victor Hugo, Joris Karl Huysmans ou encore Maeterlinck ou Bernanos, mais également la Bédie Noire sur laquelle avait déjà travaillé Antoine de Bach. À partir de ces sources littéraires, vous nous racontez comment justement, eh bien, entre religiosité, naissance de l'intimité, naissance de l'individu aussi, eh bien, ce silence pouvait trouver sa place dans les les sociétés qui couraient nos sociétés depuis la Renaissance jusqu'à aujourd'hui.
Oui, il y a des étapes d'ailleurs. Au XVIIe siècle, le grand siècle du silence, hein, il est évident que Bossuet, l'abbé de Rancé et bien d'autres approfondissaient au maximum, en quelque sorte, la réflexion sur la richesse du silence. Mais les romantiques, eux, c'est différent. Les romantiques sont attentifs au silence de la nature, au silence de l'intime, au silence de la chambre. Les transcendantalistes américains comme Thoreau disaient que la seule chose qui importe finalement, c'est le silence.
Et ce silence peut aussi parfois faire peur. Il peut aussi être là pour angoisser. Il n'est pas simplement un silence apaisant, Alain Corbin. Oui,
en général, il l'est. Mais il y a aussi, c'est vrai, un tragique du silence. Et c'est peut-être pourquoi aujourd'hui, les jeunes ont peur du silence. Ce n'est pas seulement la peur de l'ennui, c'est la peur de se trouver, en quelque sorte, et ne pas être distrait à l'égard de soi-même.
Alors, vous vous êtes visiblement amusé dans ce livre, Alain Corbin, puisque vous avez malaxé, comme vous le faites souvent pour vos livres, des centaines de sources, et des sources littéraires en l'occurrence, et que vous avez mis un petit interlude, dont je regrette qu'il soit un peu court au milieu de ce livre, parce qu'il dit beaucoup, sur Joseph, donc... et Marie, et en l'occurrence le Joseph de Marie, que vous appelez l'absolu du silence, le silence d'un homme, Joseph, et celui d'un lieu, Nazareth, sont étroitement liés, dites-vous, et ils sont absolus. Le père adoptif de Jésus demeure totalement muet dans les Écritures. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne parlait pas, ce père de Jésus, mais ça veut dire que les Écritures l'envisagent comme quelqu'un qui ne parlait pas.
Voilà, c'est un bloc de silence. Et pourquoi ? Ça a duré 30 ans, cette affaire,
c'est
en quelque sorte. Pas 30 ans parce qu'il est mort. Il est mort avant que Jésus ne commence sa prédication. Mais c'est vrai que l'Écriture le montre comme un bloc de silence qui obéit à Dieu, qui obéit aux signes, mais qui ne dit rien. Et c'est un mystère qui a été relevé, par exemple, par Charles de Foucault, qui a été illustré par des peintres comme Latour, et qui fait beaucoup réfléchir, parce que ça a été très long, finalement, cette enfance. Charles de Foucault commence à étudier le silence dont vous parlez, dès le ventre de la mère, porteuse de la mère enceinte, en quelque sorte. Et il évoque cette présence de Marie et de Joseph autour du berceau, ensuite, se taisant. Voilà.
Et cela, effectivement, c'est la particularité de votre livre que de prendre ces sources littéraires, de les confronter aussi à des sources picturales, et de vous dire, tout compte fait, que le silence peut être représenté en peinture, et que vous avez de nombreux exemples de cela, pas simplement des tableaux qui porteraient ce titre, mais aussi des œuvres comme celle d'Edward Hopper, par exemple, dont vous dites qu'elles sont les plus parfaites représentations de ce que c'est qu'un silence, Alain Corbin.
Ah oui, mais Marc Fumaroli avait déjà beaucoup souligné l'importance du silence, en particulier au XVIIe siècle, quand le spectateur regardait le tableau, parce qu'il ne le regardait pas comme nous le regardons. Il le regardait en quêtant, justement, la parole du silence qui était dans ces tableaux. Rembrandt, par exemple, que c'était beaucoup souligné par Paul Claudel, cela. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, quand on contemple, on considère une œuvre d'art, il faudrait aussi essayer de retrouver
cette qualité.
Cette qualité de silence, cette texture de silence qui était celle de l'époque.
Et ça, c'est difficile, parce qu'évidemment, cette texture de silence a été recouverte par des milliers de mots. Les milliers de mots des amateurs d'art, des salons, des historiens d'art, d'une certaine façon. Et qu'aujourd'hui, souvent, quand on arrive devant un tableau, on cherche d'abord le cartel, on cherche d'abord l'inscription de cette œuvre dans une longue histoire de l'art, plutôt que de la laisser parler elle-même, Alain Corbin.
Oui, d'autant plus qu'aujourd'hui, dans les expositions, il y a tellement de monde, tellement de gens qui parlent, que le silence est quasiment impossible. C'est très difficile de retrouver le silence des œuvres, sauf si par chance on a la possibilité de se trouver en face et en silence.
Alors, vous parlez aussi de Chateaubriand. Chateaubriand qui va chercher le silence ailleurs, d'une certaine façon, qui va le quêter dans un Orient rêvé, et qui le trouve dans un endroit dont on parle beaucoup depuis un siècle et demi, depuis un an et demi, Palmyre. Palmyre, oui. La demeure du silence, dit-il.
Oui, pour lui, l'Orient est un silence. Mais c'est, ou du moins une série de silences. Dans l'Empire ottoman, le silence est preuve d'écrasement, de despotisme en quelque sorte. Si les gens se taisent, c'est parce qu'ils sont écrasés. En revanche, à Jérusalem, qui fait partie de l'Empire, le silence est un silence biblique, est un silence divin. Donc il y a plusieurs silences dans les œuvres de Chateaubriand en Orient.
Et celui de Palmyre en est un particulier.
Oui, oui, ça renvoie aussi au silence des ruines.
Ah oui.
Les ruines ont une qualité, ça a été beaucoup souligné aussi bien par Chateaubriand, même par John Ruskin au XIXe siècle. Les ruines ont une qualité de silence tout à fait particulière, à tel point que Chateaubriand se rend à Soligny-la-Trappe, le grand monastère du silence, sur l'injonction de son confesseur, pour essayer de trouver les silences perdus.
Mais il ne les trouve pas, justement.
Mais il ne les trouve pas, parce que le silence de la Trappe, tel que l'abbé de Rancé l'avait voulu, c'était un silence pour la prière, pour l'oraison, etc. Et quand Chateaubriand s'y rend, il y a eu la Révolution, il y a le romantisme, il y a le code du sublime, le vent, etc. Donc, il enregistre des phénomènes de bruit qui l'empêchent de retrouver le silence du XVIIe siècle. Alors, ce jeu entre le silence du XVIIe siècle et le silence du XIXe siècle, c'est un des éléments fondamentaux, à mon avis, du livre de Chateaubriand intitulé « Vie de Rancé ».
Oui, ça, c'est assez extraordinaire, parce que ça veut dire que dans un même lieu qui n'a pas été profondément bouleversé.
Non pas.
Au point de vue de l'espace urbain, de l'invention de machines à vapeur qui viendraient perturber la qualité de silence, c'est la perception de celui qui s'y rend qui change au bout du compte et qui fait qu'il n'entend pas la même chose parce que le romantisme, dites-vous, a laissé entendre qu'on pouvait entendre là où ceux qui, deux siècles plus tôt, s'y trouvaient, n'entendaient pas ces choses-là.
Oui, mais Chateaubriand s'efforce.
Il essaye.
De constituer une sorte d'archéologie du silence de Soligny-la-Trappe. Pour lui, d'ailleurs, il y a trois grands silences. Hein. L'Escurial, c'est vrai que quand on y pense, ce palais, ça implique tout de suite l'impression de silence. Port-Royal et Soligny-la-Trappe, les trois grands témoins, en quelque sorte, de l'histoire du silence. Mais dans l'ensemble, les ruines, hein, comme donc on vient de parler de Palmyre, sont aussi des lieux silencieux.
Et puis, vous évoquez évidemment Soro, David Soro, qui est ce personnage formidable qui a inventé d'une certaine façon une sorte d'écologie américaine, et qui, en se promenant dans les forêts du Maine ou dans les forêts américaines de l'époque, au XIXe siècle, a réinventer la position de l'homme au milieu de la nature. Et il dit, en relatant son exploration des forêts du Maine, qu'il décrit le comportement d'un chasseur indien, dites-vous. Armé d'une hache, celui-ci se glisse sans faire de bruit dans les broussailles. Sa démarche est particulière, élastique, silencieuse et furtive, et tout en progressant, il désigne par-ci, par-là, silencieusement du doigt, une goutte de sang sur les feuilles. La chasse peut être aussi silencieuse, dites-vous, Alain Corbin.
Oui.
On l'imagine plutôt bruyante, surtout depuis l'invention des fusils et des carabines, mais c'est une chasse silencieuse.
Sylvain Venner, qui étudie les grandes chasses du XIXe siècle en Afrique et dans l'Inde, montre bien que les périodes d'affût sont des périodes de silence. Et en ce qui concerne Soro, pour lui, seul importe le silence, finalement. Mais comment éprouver le silence, se demande Soro. Pour l'éprouver, il faut qu'il y ait des petits bruits de la nature qui le révèle, en quelque sorte, un petit croissement, le bruit d'un moustique, que sais-je, il le cite, ça. Et ça, c'est quelque chose que les romantiques ont beaucoup souligné. Par exemple, Maurice de Guérin, lui aussi, dit que pour retrouver le silence présent qui souvent renvoie à un silence de l'enfance. Mm-hmm. Pour cela, ce sont des petits bruits entendus dans l'enfance, réentendus dans l'âge mûr, qui permettent de goûter une texture particulière des silences dans la campagne.
Alors, il y a le silence volontaire, pourrait-on dire, celui dans lequel on se plonge quand on veut, comme l'abbé de Rancé, mieux parler à Dieu.
Et mourir.
Et mourir.
Parce qu'il est mort en silence, en Absolument. Disant « je vais mourir, je fais silence ».
Il ne me reste que quelques instants à vivre. Le meilleur usage que j'en puisse faire, c'est de les passer dans le silence.
Il le fit.
Et il le fit. Mais il y a aussi des tactiques de silence qui tiennent plutôt à la vie mondaine, plutôt à la vie en société d'une certaine façon, et non pas au retrait dans du monde, dans un espace lointain. Et ces tactiques de silence, vous les analysez aussi dans un de vos chapitres, Alain Corbin. Elles sont les tactiques de cour, les tactiques de courtisan, ne point trop en dire, parce que si on en dit trop, eh bien d'une certaine façon, on s'engage.
Oui, d'abord, ça, c'est lié à la civilisation de mœurs, des mœurs mises en valeur, vous le savez, au XVIe siècle, qui implique la contention des émotions, la contention de tout, de soi, en quelque sorte, dans la société de cour. Il est évident qu'on ne peut pas parler à Louis XIV comme à n'importe qui, et que, inversement, le Louis XIV devait être avare, en quelque sorte, de sa parole et savoir se taire. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Celui qui gouverne doit savoir se taire. Mais de toute façon, parler, c'est se mettre en péril, mm-hmm. en quelque sorte. C'est se livrer, c'est se mettre en péril. Et celui qui sait se taire a une présence silencieuse qui est recommandée par tous les moralistes du XVIIIe siècle, mais auparavant par Balthazar Castiglione ou Balthazar Gracienne, mais surtout en France par les moralistes du XVIIIe siècle, comme La Rochefoucauld, bien entendu, Madame de Sablé, tout. Donc, cette économie de la parole est intéressante parce qu'au XIXe siècle, on la retrouve chez les paysans.
Oui, paysan, ce que vous dites, formidable passage que sur les paysans.
Le paysan est un taiseux, et il faut savoir pourquoi. Il est un taiseux. D'abord parce que il ne faut pas se livrer. Il ne faut pas livrer les secrets de la famille. Il ne faut pas livrer les intentions que l'on peut avoir pour augmenter son bien.
Et quand on est, par exemple, dans une église en train de prier, il ne faut pas parler du tout. Et il faut dire, une définition minimale de la prière, dites-vous, Alain Corbin, je la vise, en parlant du Christ, donc, je la vise, je le regarde, et il m'avise. Et ça suffit.
Oui, c'est le curé d'Ars avait été très intrigué par un paysan qui venait s'agenouiller régulièrement devant l'ostensoir dans son église et il ne disait rien du tout. Et ce paysan lui a dit, mais je la vise et il m'avise. Donc je n'ai pas besoin de parler.
Pourquoi donc parler? Vous aviez, il y a quelque temps, c'était un article qui avait été remarqué, commencé à travailler sur cette question du silence. Et on peut se dire qu'il est un peu dommage, au bout du compte, que cette question que vous synthétisez dans cette histoire du silence chez Alain Michel n'ait pas trouvé plus d'oreilles attentives, si je puis dire. C'est-à-dire que vous avez voulu chuchoter le silence aux yeux des étudiants et au bout du compte, il n'y a pas eu vraiment un travail sur cette question du silence.
Non, je l'ai proposé plusieurs fois. Aucun étudiant n'a voulu s'engager dans une affaire pareille. Et au fond, je les comprends parce que l'histoire du silence, c'est très difficile, c'est très risqué dans un milieu universitaire. Pour trouver un poste universitaire, par exemple, arriver en disant je suis un spécialiste de l'histoire du silence, ça ne fait pas très pédagogique en plus.
Et puis, une des questions qui vient à l'esprit quand on vous lit, c'est aussi le silence des sources, d'une certaine façon. Les sources littéraires, vous les avez trouvées, elles existent. Les écrivains écrivent beaucoup sur le silence, au bout du compte. Oui. Mais les sources classiques, pourrait-on dire, celles que vous aviez parcourues avec Pinago ou d'autres, parlent-elles si souvent du silence?
Non, c'est pas possible, puisque le silence, c'est, du moins, goûter le silence, goûter ses textures, c'est relater une émotion. Par conséquent, ce n'est pas dans des archives départementales ou nationales qu'on peut trouver des signes de ça. En revanche, évidemment, l'histoire littéraire et l'histoire de la poésie notamment, qui est une source d'histoire que je défends.
Merci Alain Corbin. Je conseille donc la lecture de cette histoire du silence de la Renaissance à nos jours, qui paraîtra mercredi ou jeudi, je crois, cette semaine en tous les cas, chez Albin Michel. Merci encore Alain Corbin d'être venu nous voir.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Bonjour Séverine Yatta.
Bonjour.
Et bonjour à vous Christian Topalov. Bonjour. Merci d'être ici aujourd'hui pour ouvrir notre semaine consacrée aux enquêtes. Qu'avez-vous voulu faire d'une certaine façon avec cette série sur les enquêtes dans la fabrique de l'histoire, Séverine Yatta?
Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Bah, à la fois, oui, se questionner sur la manière dont on mène ces enquêtes. Et on l'entendra d'ailleurs demain, de manière plus concrète peut-être, avec Françoise Onaben et l'enquête Amino, puisque Françoise Onaben a déposé ses archives à la MSH de Dijon. Et que c'est aussi à partir de ces archives, évidemment, qu'on peut faire une histoire des enquêtes, reprise notamment par certains sociologues comme Gilles Laferté, qui lui, entre autres, voilà, mène un séminaire sur ces problématiques-là et écrit des articles et un ouvrage, un numéro de revue, je crois, apparaître prochainement.
Alors, que sont ces enquêtes, justement, sur lesquelles vous travaillez vous-même, Christian Topalov, jusqu'à publier Histoire au pluriel d'enquêtes, donc Londres, Paris, Chicago, 1880-1930, chez Classique Garnier. Que sont ces enquêtes sociologiques, historiques, de sociologie urbaine? C'est quoi l'enquête, justement?
Vous voulez dire mon enquête sur ces enquêtes?
Non, les enquêtes sur lesquelles vous travaillez déjà.
Écoutez, ce qui me frappe beaucoup, c'est que quand on s'intéresse aux sciences sociales de façon générale, à la sociologie aussi, on s'intéresse souvent à ce que disent les savants. Alors on les interroge sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils croient, sur ce qu'ils préconisent, etc. Et assez rarement, on regarde ce qu'ils font. Et je pensais que c'était la bonne chose à faire, parce que en observant, autant que faire se peut, puisqu'il s'agit du passé, bien sûr, en observant ce que les savants font, on comprend infiniment mieux comment ils étaient inscrits dans le temps qui était le leur, à quel point aussi ils nous sont, d'une certaine façon, beaucoup plus étrangers qu'on ne le croit habituellement. Et puis aussi, on comprend mieux leur œuvre, tout simplement.
Et donc, pour ça, vous choisissez quand même Christian Topalov. J'imagine que ce n'est pas anodin. Donc, trois sociologues dans trois villes différentes et de nationalités différentes d'une certaine manière, qui travaillent tous les trois. Vous allez nous en parler peut-être un petit peu, parce que je pense qu'on ne connaît pas forcément, les auditeurs ne connaissent pas forcément, qui travaillaient tous les trois sur la ville, hein, quand même, et à des périodes légèrement différentes aussi. Alors, il y a une sorte de progression peut-être chronologique, voilà, pour montrer à la fois ce que vous disiez, comment ils travaillent dans la société, à travers le monde des savants, entre eux ou non, enfin, toutes ces problématiques-là. Mais ce choix, en fait, de trois grands sociologues de la ville...
Alors, pour répondre à votre question, je peux soit être honnête, soit l'être moins. En fait, vous savez, dans la vie d'un chercheur, les circonstances jouent énormément. Et ça, là-dessus, je ne vais pas m'étendre, mais il faut d'abord dire ça. J'ai rencontré, en fait, ces trois terrains, pourrait-on dire, au fil de travaux qui portaient sur autre chose que l'histoire des sciences sociales et qui portaient sur l'histoire de la réforme sociale, dirons-nous, telle qu'elle prend corps à partir de la fin du 19e siècle et qui va aboutir plus tard, et selon des modalités très différentes selon les pays, à quelque chose qui ressemble à l'état social, ce qui est précisément en ce moment en cours de démantèlement. Donc j'ai rencontré les savants à partir de questions qui ne portaient pas sur les sciences. Et ça, je crois que j'ai eu de la chance, parce que ça me permettait précisément de les regarder tout de suite dans leur temps.
Qui sont ces trois
Alors, Charles Booth, pour commencer. Ouais. Charles Booth n'est pas un sociologue, c'est un négociant, c'est un armateur de Liverpool, un grand patricien, disons, un grand bourgeois britannique de la fin du 19e siècle, qui s'entiche de l'idée de devenir un personnage dans le monde de la réforme sociale, un personnage public en quelque sorte. Et le moyen qu'il trouve pour ce faire, c'est de s'occuper de la ville de Londres.
On est à la fin du 19e siècle, dans les années 1880.
En 1886, il y a, au mois de février, une émeute de sans-travail. Et toute la bourgeoisie londonienne est terrorisée. Les historiens britanniques ont beaucoup documenté ce moment. Et Booth a une conviction, c'est que tout ça n'est pas si grave. et qu'on peut trouver des solutions. Et ces solutions, on va les trouver du côté de la réforme du marché du travail. Il faut stabiliser l'emploi, ce qui est assez cocasse quand on lit la loi actuellement en cours de discussion. Donc Booth, pour ce faire, pour démontrer ce point, lance une grande enquête qui va durer 17 ans auprès, sur Life and Labour of the People in London, c'est-à-dire la vie et le travail du peuple de Londres.
Et en particulier la pauvreté dans cet espace londonien.
Un des points cruciaux, disons, de sa découverte, c'est que finalement la pauvreté, c'est sérieux, mais c'est pas si grave que ça.
Voilà. Et il fait ça en marge de la sociologie britannique, en l'occurrence.
Alors,
lui,
il faut bien dire que la sociologie britannique à l'époque n'existe pas quasiment du tout. Elle n'existera pratiquement pas pendant une cinquantaine d'années, du moins dans sa version universitaire. On a à cette époque des théoriciens sociaux qui, dont certains souhaitent s'appeler sociologues. Mais disons, on a vraiment la science réformatrice dans son caractère prototypal avec Booth.
Alors ça, c'est Charles Booth, c'est les années 1880 à Londres. Un autre nom, plus connu des historiens, pour d'autres raisons d'ailleurs, c'est Maurice Halbwax. Vous travaillez d'ailleurs à l'École des hautes études en tant que chercheur au centre Maurice Halbwax. Maurice Halbwax, dont on sait peu, enfin en tout cas quand on est historien, qu'il débute sa carrière de jeune étudiant en philosophie en travaillant lui aussi sur une sorte d'enquête sociale, mais là sur Paris au début du XXe siècle.
Alors, enquête sociale, c'est peut-être beaucoup dire, parce que Halbwax n'a jamais fait d'enquête et il n'en fera jamais de sa vie. C'est une doctrine. Parce que c'est pas en allant regarder comment les choses se présentent qu'on comprend l'essence des phénomènes sociaux, c'est en comparant des situations singulières. Donc le sociologue, le vrai savant, a pour tâche, disons, de mettre en regard, côte à côte, des observations faites par d'autres.
Ouais. Donc, et de se placer aussi dans une science en train de se créer, la jeune sociologie française, dont il est un des jeunes membres d'une certaine façon, et donc de tailler sa part au milieu des parts du lion, par exemple de la philosophie, de l'histoire, ou encore de l'économie.
Donc le projet essentiel de Halbwax et de sa petite équipe, qui est en fait, ce sont les disciples de Durkheim, la première génération des disciples de Durkheim, leur problème c'est de montrer que la sociologie est une science, et que peut-être une science reine, contrairement à ce que les historiens prétendent. Donc, ils travaillent sur un moment particulier de l'histoire de Paris, qui est, en gros, le Second Empire et ses suites. Au fond, nous dirions les grands travaux d'Haussmann. Mais surtout, il n'intitule pas son enquête de cette façon. Il enquête, en fait, sur les transformations de la voirie, sans jamais écrire le nom du préfet de Napoléon III, parce que les individus, c'est la thèse fondamentale, n'ont pas d'importance dans cette affaire. La ville a ses propres lois de développement, et c'est ça qu'il veut tenter de mettre en lumière.
Et donc, il appellera ça, enfin, les principes de la morphologie sociale, alors après, en fin d'enquête. Et enfin, votre troisième terrain, c'est Chicago.
Ça, c'est Chicago, donc c'est un portrait de groupe, c'est toute une équipe avec deux personnages centraux, le vieux Park et le jeune Burgess. Park est un sociologue qui a été bien d'autres choses avant, et notamment journaliste, secrétaire de T. Booker Washington, qui était un grand réformateur non afro américain. Et puis, il arrive dans la sociologie un petit peu par accident, et puis c'est un professeur grognon et plein d'intuition, mais qui fait pas grand-chose sur le terrain. Et puis Burgess, son acolyte, beaucoup plus jeune, il a fréquenté les travailleurs sociaux pendant toute sa jeunesse. D'une certaine façon, il est né comme l'un d'entre eux. Et l'un avec l'autre, côte à côte, ils vont faire un manuel de sociologie en 1921 ensemble. Ils vont établir que la sociologie est une science. Et pour ce faire, ils vont à la fois adopter un langage très hard science, celui de l'écologie animale et végétale qu'ils vont appliquer à la société humaine. Et puis d'un autre côté, ils vont dire ça suffit de travailler dans les bibliothèques et de répéter ce que les autres ont dit ou de le critiquer. Ce qu'il faut maintenant, c'est aller en ville.
Sur le terrain.
Et aller sur le terrain. Ce qu'ils n'ont pas fait, mais ce qu'on croit souvent qu'ils ont fait.
Alors, ce qui est très intéressant dans ce choix que vous faites, parce que c'est un choix, et vous l'assumez, en l'occurrence, Christian Topalov, c'est de se dire, quand on est, comme vous, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, un peu comme on peut faire des études d'égo-histoire, une étude d'égo-sociologie, c'est-à-dire de se dire comment j'en suis venu là, pourquoi je suis à la place où je suis en tant que directeur d'études, quelles sont mes références et comment je les ai choisies. Et ce qui est très intéressant dans cette histoire d'enquête, c'est que vous expliquez qu'effectivement, il y a une part de hasard, une part de nécessité, qu'il y a des ouvrages qu'on a lus, d'autres qu'on n'a pas lus, d'autres qu'on a abandonnés, et que tout cela fabrique une sorte de filiation que l'on se donne quand on est chercheur aujourd'hui, comme vous l'êtes, en sciences sociales, une filiation que l'on se donne en allant chercher des grands ancêtres et en les mettant ensemble alors qu'ils n'ont pas grand-chose à voir, parce que ces trois expériences, dites-vous, sont certes concomitantes ou presque, mais elles ne sont pas forcément liées entre elles.
Elles sont en fait l'une, chacune d'entre elles, complètement inscrites dans la ville qui les a produites d'une certaine façon, dans le site qui a fabriqué ces savants.
Londres, Paris et Chicago.
Londres, Paris et Chicago. Mais en ce qui me concerne, je ne pense pas les considérer comme des grands ancêtres, parce que en gros, j'ai pas une folle sympathie pour ce qu'ils sont, ce qu'ils disent, et je crois que j'ai eu cette sagesse de ne pas travailler sur des grands auteurs que j'aimerais, parce que ça aboutit généralement, quelles que soient les intentions. Souvent excellente des collègues, ça aboutit à des formes d'agiographie. C'est-à-dire qu'on explique à quel point tel auteur est important pour nous aujourd'hui, et voilà pourquoi. Et je crois que je suis parvenu à me tenir à distance de cette posture-là. En revanche, ce que j'ai essayé de faire, c'est donc de les resituer dans leur temps, c'est-à-dire de montrer à quel point ils répondaient à des questions qui ne sont pas les nôtres. Et à quel point que ces questions, on les a oubliées d'une certaine façon.
Mais en même temps, ce travail, Christian Topalov, et vous le dites vous-même, il sied tout à fait à un sociologue, puisque ce sont les sociologues qui font l'histoire de la sociologie, et à travers l'histoire de ces enquêtes, cette enquête sur enquête, cette histoire d'enquête, c'est évidemment une histoire de la sociologie que vous faites, et d'une sociologie urbaine.
Je dois avouer que vous avez raison, et c'est un grand tort que les sociologues fassent l'histoire de la sociologie. Je
crois. Mais comment faire autrement, vous dites aussi.
C'est un peu difficile, bien sûr. À la fois, les sociologues ont besoin de se raconter des histoires pour tout simplement penser ce qu'ils sont. Et nécessairement, on sacrifie à des mythes, et je suis le premier à le faire, j'espère, dans d'autres théâtres que ce livre. Ça, c'est inévitable. Mais d'un autre côté, je crois que seuls des gens qui sont extérieurs à la discipline peuvent véritablement situer les savants dans leur temps, c'est-à-dire les interroger autrement que comme étant nos ancêtres.
C'est ce qui est très intéressant, c'est que vous dites qu'il faut faire de l'histoire de ces disciplines et donc les mettre à distance d'une certaine façon, et aussi ne pas les prendre comme des œuvres uniques, des sortes de véritables monolithes à la 2001 Odyssée de l'espace, mais les remettre dans le contexte, et pour cela faire de l'histoire, parce qu'il faut aller dans les archives, dans les correspondance, regarder les intentions des acteurs qui ont écrit ces œuvres, les relations aussi qu'ils avaient avec les autres universitaires, et ainsi les recontextualiser ces œuvres pour dire qu'elles ne sont pas des œuvres entre guillemets éternelles, mais des œuvres situées, Christian Topalov.
Alors, à vrai dire, le plaisir des archives est très grand quand on fait une enquête comme celle que j'ai faite. D'autres collègues, bien sûr, en font à leur manière. Les archives nous disent énormément de choses. Et ils nous disent par exemple, qu'à aucun moment, ceux que nous considérons comme des auteurs ne sont que ça. Ils font plein de choses. Ils font énormément de choses. Ils font des choses dans leur vie quotidienne de personnes privées. Ils font des choses dans les institutions. Ils font des choses dans leur cabinet de lecture, bien entendu. Et ils sont sans arrêt dans tous ces sites en relation avec autrui. Et je crois que essayer de reconstituer ce que j'appelle les conversations dans lesquelles ils étaient engagés, ils se sont engagés, permet de comprendre simultanément ce qu'ils ont voulu faire dans le rapport avec autrui, dans une interaction sociale réelle, et ce qu'ils ont voulu dire dans cette interaction même. Donc je crois que la première leçon des archives, c'est que ces gens ne sont jamais seuls. Et puis, une autre leçon des archives, c'est qu'elles nous permettent d'observer comment ils ont fait pour produire les résultats que nous voyons dans leurs livres, et en particulier comment ils ont observé.
Mais quand on a aussi accès à ces archives, et à quelles archives, parce que, et ça vous l'expliquez aussi, c'est-à-dire dans quelle mesure un chercheur garde ses archives, les conserve, dans quelle mesure un chercheur écrit toute sa démarche scientifique, c'est d'ailleurs une des questions qu'on posera avec Françoise Onaben demain, qui elle-même parle de ses archives tout en critiquant l'absence, ce qu'il y a d'absent aussi dans les archives.
Bon, ça c'est un immense problème, bien entendu. Les archives sont ce que le hasard, qui est un autre nom de la nécessité, bien sûr, nous a légué comme trace du passé. Mais en ce qui concerne mes trois terrages, j'argumente un petit peu en défense, ce sont des archives d'une très très grande richesse. On a véritablement les archives complètes de l'enquête de Booth, qui permet véritablement de reconstruire étape par étape l'élaboration du produit final. On a concernant Alvac, c'est un peu différent. Ce sont des archives privées, beaucoup de correspondances, notamment avec sa chère Yvonne. Il ne pouvait pas la quitter pendant plus de 48 heures sans lui écrire une lettre. Quelle merveille! Et la famille a eu cette intelligence de déposer tout ça. Malheureusement, les réponses d'Yvonne ne sont pas dans Alibec. Ne sont pas donc dans le dépôt d'archives, c'est regrettable, mais on peut penser quand même qu'on a là des traces tout à fait riches, en particulier de tous les voyages de notre sociologue. Et quand on voyage, vous savez, on révèle vraiment ce qu'on pense et ce qu'on essaye de faire avec le monde extérieur, quoi. Et enfin, bon, du côté de Chicago, les archives sont très très abondantes, et en particulier parce que tous les travaux qui étaient faits dans ces années 20 dans cette université étaient des travaux faits sur financement, sur projet, comme on dit aujourd'hui. Et par conséquent, il fallait, sur chacune des enquêtes, chacun des petits projets qui composaient l'ensemble, argumenter, donner des papiers d'étape, etc. Et ça, c'est merveilleux.
Alors, ça explique aussi, c'est un des facteurs, c'est ce que vous étudiez aussi, c'est-à-dire pourquoi fait-on une enquête ? Quand elle est financée, à l'intention de qui? Eh ben, je pense par exemple l'enquête de Park et Burgess. Elle est financée par Rockefeller, par exemple.
Tout à fait. Elle est financée par Rockefeller, qui avait une idée simple, c'est qu'il faut réformer profondément l'université états-unienne. Et en particulier, celle qu'il avait, ces chargés de mission qui s'occupent de ça. C'est pas, quand on peut pas s'occuper de pétrole et de sociologie à la fois. Mais, voilà, il fallait transformer l'université, c'est-à-dire remettre l'université profondément dans la ville pour en faire finalement un outil de réforme sociale. Et donc, pour ça, il fallait changer toutes les règles du jeu en matière de recherche.
Alors, ce qui est très intéressant dans votre démarche, d'une certaine façon, Christian Topalov, dans ses histoires d'enquête parues chez Garnier, c'est de dire et d'affirmer haut et fort que le contrôle du passé d'une discipline est un enjeu pour les chercheurs du présent. Et vous dites, j'espère ne pas être soit un gardien de la tradition, soit un redresseur de tort, soit un bâtisseur de monuments, mais néanmoins, il faut savoir que quand on est dans une discipline, ça peut être l'histoire, la sociologie, ou d'autres sciences sociales ou humaines, eh bien, il y a une volonté de celui qui participe à cette discipline d'être une sorte de contrôleur du passé de la discipline, parce que ça lui donne un certain pouvoir, Christian Topalov.
C'est indéniable. Je crois que c'est un point de vue sociologique que de décrire les choses ainsi. Et je ne crois qu'il n'y a pas dans cette position ou dans cette conviction d'ironie mal placée ou de critique malveillante. Au fond, une discipline de sciences humaines, c'est sa tradition. Et sa tradition, c'est un choix parfaitement arbitraire dans tous les auteurs qui pourraient la constituer. Et ce choix-là, nous le faisons constamment, moi le premier, le premier ou le centième d'ailleurs, on le fait constamment et c'est normal. Ce qui est plus inquiétant, c'est de prendre les vessies pour les lanternes et de raconter notre mythologie du moment comme étant une vérité historique. Et là, histoire et mémoire divorcent et doivent divorcer. Et je crois que c'est de salubrité publique que d'organiser ce divorce, que ce livre s'est assigné cette tâche d'une certaine façon, parce que ça permet à quiconque a un peu de temps et de ressources pour aller dans les archives, de réécrire l'histoire d'une autre façon que celle qui est en vigueur au moment où nous parlons.
En conclusion, vous dites que ce travail sur ces trois enquêtes de Londres, de Paris et de Chicago entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, selon vous, est un travail qui permet de réfléchir à des questions qui sont des questions générales pour les sciences. Qu'est-ce qu'une question scientifique pertinente? Qu'est-ce qu'une preuve? Qu'est-ce qu'un fait? Et que grâce à cet apprentissage que vous avez eu de ces œuvres et de leur construction avec tout ce qui les entoure, en particulier les lettres, les correspondances, les archives, eh bien, vous arrivez à approcher justement ces trois questions qui sont des questions essentielles de l'épistémologie et de l'histoire des disciplines.
On pourrait peut-être juste retenir une chose. Aujourd'hui, les savants, les scientifiques sont convoqués pour être des experts, n'est-ce pas? Et je crois que c'est une posture totalement différente de celle des savants que je décris. Un expert, c'est quelqu'un qui répond aux questions qu'on lui pose. Un scientifique, c'est quelqu'un qui pose ses propres questions. Et croyez-moi, ces gens-là étaient totalement persuadés, y compris Alvax dans sa tour d'ivoire de la Sorbonne, étaient totalement persuadés d'être utiles à la société. Mais pas en épousant les points de vue...
La demande sociale, la demande de l'État.
De la supposée demande sociale, qui est une fiction, bien entendu, et parce qu'il s'agit évidemment que de la demande solvable, et aujourd'hui d'une bande de bureaucrates dans le ministère. Excusez-moi, il faut dire ces choses-là. On est en train de créer des sciences sociales aux ordres, et avec toutes ces recherches sur projet, et l'ANR en particulier, c'est la fin de la pensée et de sa diversité. Attention, bon, et mes savants, à moi, ils voulaient être utiles, c'est leur affaire, mais ils pensaient qu'on ne pouvait être utile qu'en étant scientifique.
Et qu'en proposant.
Et qu'en proposant un point de vue différent de celui de leurs partenaires dans le monde social. Les hommes de Chicago étaient convaincus que les problèmes urbains tels que les travailleurs sociaux les formulaient étaient des vrais problèmes, d'accord, mais... Eux, les sociologues, devaient reformuler ces problèmes à leur manière, dans leur langage théorique, et avec des méthodes d'enquête qui leur étaient propres, pour éventuellement être utiles.
Ça, vous dites souvent, et vous terminez là-dessus, que la science est politique, et vous venez de nous démontrer très brièvement, en l'occurrence, il y a cette dimension politique de la science qu'il ne faut jamais oublier. La légende enchantée des origines de l'anthropologie urbaine risque de faire oublier que les conditions de celle-ci étaient fondamentalement politiques, Christian Topalov.
Et en particulier, la capacité des savants d'aller vers le monde social. À cette époque-là, vous savez, un savant, c'est un bourgeois. Et un bourgeois, ça va pas dans le peuple. Il faut des conditions très particulières pour qu'il le fasse. Donc, ils commençaient à inventer l'enquête, thème de votre semaine, ils commençaient à inventer l'enquête avec cette énorme difficulté qu'il fallait franchir une barrière énorme qui était la distance sociale avec la ville, au fond.
Et puis cette idée qui est intéressante aussi, c'est du collectif, c'est-à-dire qu'on dit toujours le savant, mais il ne travaille jamais seul, en fait. Hein. C'est quand même montrer que c'est un énorme travail avec des enquêteurs, des informateurs, enfin voilà, collectif d'abord.
C'est très clair chez les gens de Chicago, c'est très clair chez Booth, qui avait toute une armée d'enquêteurs salariés auprès de lui. Et c'est aussi un aspect, disons, du travail de l'enquête sur l'enquête que de constater que, en fait, le produit final n'est jamais de la main d'un auteur, mais est le résultat d'une chaîne de collaboration extrêmement ample en règle générale. Et que les auteurs, justement, aiment bien nous faire oublier.
On voit bien combien vous avez mis de vous-même dans cette question-là. Enfin, on met toujours dans une enquête que l'on mène comme ça beaucoup de soi, mais ce travail que vous avez mené vous importe dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, j'ai l'impression.
Il est difficile d'écrire en dehors du contexte qui est le nôtre, en général.
Et oui, mais j'avais oublié que je parlais à un sociologue et que j'aurais dû me taire. Merci Christian Topalov. Je rappelle que Histoire d'enquête au pluriel, Londres, Paris, Chicago, paraît aux éditions Classiques Garnier. Merci encore.
Et de l'enquête sociologique du 19e siècle à l'enquête ethnographique du 20e siècle, c'est ce que nous allons faire comme bon avec vous, Cyril Niattard, demain, donc, avec le documentaire que vous avez préparé avec Véronique Samouilov.
Et oui, avec ce retour à Minot, retour sur l'enquête de Minot, donc une enquête qui avait eu lieu dans les années 60 dans le Châtillonnais. Quatre femmes anthropologues, Tina Jolas, Marie-Claude Pingot, Yvonne Verdier et Françoise Zonaben, qui étaient parties presque pendant une dizaine d'années dans un village pour au début faire une monographie et puis ensuite changer un petit peu les perspectives et le dispositif de l'enquête en notamment en interviewant de nombreuses personnes du village, en rassemblant comme ça toute une base de données et jusqu'à en puiser le sens, et collectivement, puisqu'on parlait de collectif aussi avec Christian Topalov, et vraiment aussi expérimenter le collectif, puisque chacune après va puiser des éléments et écrire soit à deux, à plusieurs, soit individuellement selon les problématiques qui les intéressent, et puis pratiquer ainsi aussi peut-être pour la première fois une ethnologie exotique de la France. C'est-à-dire, il y avait les anthropologues qui partaient donc dans les grandes contrées, les grands aventuriers. Elles vont à Minot et puis elles vont pratiquer, enfin utiliser le dispositif, mettre de la distance, mais surtout utiliser la méthodologie qu'on utilise
quand on va en Afrique,
en Asie ou ailleurs, dans d'autres pays, mais à Minot. Et ça va donc donner cette grande enquête qui va donner lieu à plus de 1000 pages de publication. Hein.
Et donc, on écoute un extrait du documentaire qu'on entendra demain, qui a été réalisé par Véronique Samouilov.
Ch'ti, ch'ti. Esti, c'est plutôt...
Ça veut dire
flatter plutôt, vous voyez, en maghreb, flatter, à l'aide de friandises, vous voyez.
Oui.
Pour quand on veut de quelqu'un qui soit plus gentil, comme moi, un enfant qui n'est pas gentil pour l'approcher, oui. Puis alors, acheter, ben oui, acheter quelque chose, tu sais, acheter.
La façon dont nous avons travaillé, maintenant, aucun ethnologue ne travaillait comme ça parce que il y avait, nous, on a pris notre temps. On a travaillé pendant plus de 8 ans au village. Et on revenait constamment. Alors, ils ont eu le temps de s'habituer à nous. Au départ, c'était pas si facile, effectivement, mais peu à peu, ils se sont habitués à notre présence et à nos questions. Et même quand on revenait, au bout d'un certain moment, parfois, ils nous interpellaient dans le village en disant, vous viendrez me voir parce que vous savez, l'autre fois, quand je vous ai parlé, je vous ai dit ça. Eh bien, je me suis souvenu que j'aurais dû aussi vous dire ça, etc. Donc, il y a une mémorisation de ce qu'on leur disait qui leur a fait prendre conscience aussi de ce qu'ils savaient. Et donc, c'est comme ça que peu à peu, la parole est devenue facile entre nous. Nous nous sommes entendus.
Oh ben oui, parce qu'on appelle
l'ardon
ça...
L'ardon provenant de la forêt.
Oui, c'était des champs.
En fait, c'est les petits grelots, là.
Oui, les petits grelots, oui. Il y en a qui appellent ça des grelottes. Je vois dans le midi, chez la femme où j'étais, elle me m'envoyait chez le charcutier chercher une livre de grelotte pour son goûter. Elle mettait du vinaigre là-dessus, puis elle goûtait avec ça, un morceau de pain. C'est-à-dire, c'était bien bon, mais il fallait avoir un estomac pour le digérer. On faisait des tartes avec ça, autrefois.
Plongé donc dans cette enquête de Minot, dans le Châtillonnais, une longue enquête avec Françoise Zonaben, le dire.
Françoise Zonaben qui est venue avec nous et on entendait des extraits des entretiens originaux que toutes quatre ont fait à l'époque.
Ont enregistré
et qui sont donc déposés à la MSH de Dijon. Les archives de l'enquête sont déposées à la MSH de Dijon.
Donc on plongera avec plaisir dans ce documentaire que vous avez réalisé, Séverine Yatar, avec Véronique Samouilov demain. Et puis nous continuerons cette question des enquêtes en nous intéressant aux grandes enquêtes hygiénistes, par exemple, du 19e siècle, ce sera mercredi.
Sur le travail,
effectivement.
La médecine, toutes ces problématiques au 19e siècle. Et puis,
jeudi... Ça sera une originalité, pourrait-on dire, c'est qu'on découvrira qu'en plein Moyen-Âge, le roi commandait des enquêtes à son administration pour gouverner, pour mieux gouverner. Que pensaient les sujets du roi, et en particulier de Louis IX? C'est ce que nous verrons avec nos invités de jeudi dans le débat. Merci encore, Séverine, et à demain. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marsay. Avec nous à la technique aujourd'hui, Nicolas Delmas, et à la réalisation, Véronique Samouilov. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission avec le feuilleton 29e épisode sur la guerre froide et le blocus de Berlin en 1948 ou encore Alain Corbin en première partie de cette émission et en deuxième partie Christian Topalov, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter aussi longtemps que vous le souhaitez, la télécharger dans l'année qui suit, discuter avec nous sur ce site franceculture.fr, mais également sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.